Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le général Soubrier, commandant supérieur des FANC, les forces armées en Nouvelle-Calédonie. Général, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'accepter votre invitation à l'occasion du 80e anniversaire du retour des volontaires, un anniversaire qui a fait l'objet de nombreuses commémorations ces derniers jours. Je vais vous demander tout de suite un petit rappel historique, parce que finalement, on s'aperçoit que c'est une histoire que les Calédoniens, les jeunes générations en tout cas, ne connaissent peut-être pas très bien. Qui sont ces volontaires et dans quelles conditions ils sont partis et pourquoi ils sont partis ?
Alors, merci tout d'abord pour cette invitation qui me permet effectivement de continuer à raconter cette histoire qui me tient à cœur, parce que j'avoue l'avoir un petit peu découverte en arrivant ici. L'histoire des volontaires du Pacifique qui sont partis se battre pour la liberté, cette histoire commence, je vais la faire remonter en 1940, donc appel du 18 juin du général de Gaulle. Et assez vite, malgré l'absence de réseaux sociaux et de communication que nous connaissons, de moyens de communication rapides que nous connaissons aujourd'hui, le message de l'appel du général de Gaulle arrive ici, en Nouvelle-Calédonie, et assez rapidement est relayé jusqu'au fin fond de la Grande Terre et des îles Loyauté. Et le 19 septembre 1940, le peuple calédonien rallie la France libre, avec le gouverneur Soto, qui était arrivé des Nouvelles-Hébrides. Mais c'est vraiment le peuple calédonien qui rallie la France libre du général de Gaulle. Assez rapidement, il y a un appel à la mobilisation dans les tribus, ici à Nouméa. Et le 5 mai 1941, sur le quai des volontaires, aujourd'hui le quai Ferry, 287 Calédoniens embarquent à bord du Zélandia. Il faut s'imaginer ces Calédoniens qui n'ont eu aucune formation militaire.
Alors, c'est qui ces Calédoniens? Ils viennent d'où? Qu'est-ce qui les motive à partir? Comment ça se passe?
Ils viennent de partout. Ils sont volontaires, ça c'est un point important, parce qu'ils vont composer le bataillon du Pacifique, qui existait déjà pendant la Première Guerre mondiale. Mais contrairement à la Première Guerre mondiale, les volontaires du Pacifique se sont tous engagés individuellement et se sont vraiment portés volontaires pour cette aventure. Donc ils viennent de partout. Il y a des Mélanésiens, il y a des Calédoniens qui viennent de Nouméa. Et ils rejoignent à bord du Zélandia les Polynésiens, et les Néo-Hébridais qui ont embarqué un petit peu avant. Il y a quelques Wallisiens et Futuniens aussi. Et ils sont mus par la volonté de se battre, de résister pour la liberté. Et c'est important parce qu'ils s'embarquent, donc, comme je le disais, ils n'avaient pas d'uniforme, ils n'étaient pas formés militairement. Ils partent à l'aventure, ils ne savent pas véritablement ce qu'ils vont trouver en Europe. Ils ne savent pas pour combien de temps ils partent, mais ils partent. C'est vraiment l'engagement gratuit, généreux, donc en 1941, 5 mai 1941. Et ils ne le savent pas, mais ils ne reviendront que 5 ans après, le 21 mai 1946, après avoir combattu au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Italie, en France. Donc des blessures physiques, des blessures psychologiques. 81 Calédoniens laisseront leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains sont partis... ne sont pas forcément partis sur le Zélandia en 1941, d'autres étaient partis un peu avant, d'autres partiront un peu après. Certains s'engageront dans les forces aériennes, dans les forces navales françaises libres, et d'autres reviendront en dehors de cette date du 21 mai 1946, mais les 80 ans, effectivement, cette année, sont bien pour la commémoration de ce retour.
Qu'est-ce qui est le plus extraordinaire? C'est qu'ils soient partis aussi loin? C'est qu'ils soient partis pour défendre des valeurs? Ou est-ce que même c'est qu'ils soient revenus? Parce que quand on connaît les moyens de transport à l'époque et puis la guerre entre les deux, c'est aussi extraordinaire qu'il y ait eu ce retour.
Pour moi, le plus extraordinaire, c'est le fait que ces Calédoniens à 17 000 km de la France métropolitaine, au petit matin, aient embarqué à bord du Zélandia. Ils étaient sur le quai qui jouxte la rue Ferry à l'époque, et ils s'engagent. Ce premier pas mis sur le Zélandia, c'est vraiment cet engagement que des jeunes aujourd'hui continuent à prendre pour servir, ou qu'ils servent. Et c'est, je pense, le plus extraordinaire, c'est ce pas mis sur le Zélandia, quittant la terre calédonienne et partant vers l'horizon, et un horizon qu'ils ne connaissaient pas. Et le plus extraordinaire, c'est ce retour aussi ensemble, parce que toutes les communautés calédoniennes étaient réunies, étaient rassemblées, et à bord du Sagittaire, lorsqu'ils accostent sur ce même quai des volontaires, voilà, ils reviennent tous ensemble. Certains n'étaient pas forcément partis le même jour, le 5 mai 41, mais je pense que c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ça qu'on a voulu célébrer cette année, notamment sur le quai.
Alors justement, il y a eu pas mal de gens pour ces commémorations. Quels ont été les temps forts? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? On a senti de l'émotion, on a senti beaucoup de souvenirs. Vous-même, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces commémorations?
Alors, les commémorations, déjà, vont se dérouler sur l'ensemble de l'année. Je tiens juste à préciser pour nos éditeurs, ces commémorations...
Là, on a voulu marquer le 21 mai, quand même.
Voilà, tout à fait. Mais les commémorations ont commencé au mois de février avec les classes défense. On a lancé toutes les classes défense sur le sujet. Le 15 du Pacifique est venu et ça continuera sur l'ensemble de l'année. Mais les 20 et 21, alors on a décidé de commencer la veille, parce que sinon, toutes nos activités ne rentraient pas sur 24 heures, sur une seule et même journée. Donc, nous avons effectivement débuté ces commémorations le 20 mai, l'après-midi, nous avons inauguré une plaque sur le quai des volontaires qui a été réalisée par la mairie de Nouméa, que je remercie encore, et à la gloire de ces volontaires qui sont partis le 5 mai 41 et qui sont revenus le 21 mai 46. Et le soir, nous avons eu une prise d'armes sur le quai avec l'Auguste Bénébigue, compagnon de la Libération, qui appartenait à ce bataillon du Pacifique, qui était donc accosté. Et une cérémonie qui a été très intense. Les cérémonies militaires sont assez sobres, mais assez puissantes. Et le fait d'avoir une cérémonie nocturne sur l'emplacement même du retour des volontaires en 46, avec cette foule qui est venue nombreuse, beaucoup plus nombreuse que ce que nous attendions. Les quais ne sont pas très larges. J'avais peur que ça ne tienne pas. Mais heureusement, tout le monde était à trouver sa place. Et j'avoue que le moment émouvant, le premier, c'est lorsque le fanion du bataillon du Pacifique est venu devant les troupes et que nous l'avons salué. Là, l'occasion aussi de, devant ce fanion, j'ai pu remettre aussi un certain nombre de décorations à des soldats engagés aujourd'hui, une vraie fierté. Et puis le deuxième moment, c'est lorsque j'ai croisé par hasard, on m'a présenté après la cérémonie Monsieur Pierre Déméné, que je ne connaissais pas, et Monsieur Pierre Déméné qui était effectivement sur les quais le 5 mai 1941 et qui était aussi sur les quais le 21 mai 1946. Donc nous avions un témoin direct qui a vu partir le Zélandia en 41 et qui a vu revenir le Sagittaire en 46. Et c'était un moment assez fort, je pense.
Qui était tout petit enfant, enfin qui était un petit garçon à l'époque, j'imagine, quand les choses se sont passées.
Exactement. Et puis le petit clin d'œil a été que mon ordre du jour qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, met justement en scène un petit garçon de 8 ans le 20 mai soir qui est sur le quai et qui attend impatiemment son papa qui est à bord du Sagittaire.
Mais justement, on vous sent très, très impliqué, même à titre personnel, on a l'impression, alors que vous n'êtes pas calédonien, vous n'avez pas personne de votre famille, j'imagine, qui a été associé à ce bataillon du Pacifique. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous ressentez avec cet événement, cette page d'histoire calédonienne?
Moi, je trouve cette épopée exemplaire. Je me mets à la place de ces Calédoniens qui sont partis se battre pour la liberté. Et je pense qu'il y a une grande leçon pour nous tous aujourd'hui. Pour le militaire que je suis, je revois dans cet engagement, dans cette générosité de cette jeunesse calédonienne, wallisienne, futunienne, polynésienne et Noé Brides qui s'est engagée en 1941. Je revois le même engagement et la même générosité des femmes et des hommes que je commande aujourd'hui et que je commande depuis quelques années. Et je trouve que c'est beaucoup de fierté, mais c'est aussi beaucoup d'émotion de voir des jeunes s'engager de cette manière, encore aujourd'hui, mais hier, avec les conditions de manque d'information, de manque d'équipement et de vraiment d'esprit d'aventure qui marquaient ces jeunes, c'est vrai que ça me prend aux tripes. Et quand j'ai découvert cette belle histoire, je me suis dit qu'on ne pouvait pas rater cette belle occasion de commémorer, pas pour nous. Moi, je suis de passage, je ne suis là que 2 ans, même si c'est un deuxième passage. Je ne suis que de passage, mais vraiment, ça me tenait à cœur de participer à ce devoir de mémoire, d'entretenir ce souvenir de nos anciens. Et je pense que c'est la moindre des choses que de remémorer, de commémorer le souvenir de nos aînés, de nos anciens, de nos vieux, qui sont nos vieux aussi et qui ont participé à cette guerre.
Vous dites entretenir, on a envie de dire raviver. Vous me disiez tout à l'heure qu'avant le 21 mai en Nouvelle-Calédonie, c'était un jour férié. Depuis, quand même, la mémoire s'est perdue. C'est les Fang qui ont pris l'initiative de fêter les 80 ans. Est-ce que les Calédoniens sont encore les héritiers de ces valeurs-là, de ce moment, ou est-ce que, justement, fêter les 80 ans, ça va peut-être permettre d'entretenir à nouveau, de raviver un petit peu cette mémoire collective ?
Les Calédoniens sont bien sûr les héritiers de ces volontaires. Je pense qu'il y a beaucoup de commémorations. J'imagine que le 21 mai a peut-être arrêté d'être célébré au moment où tous nos anciens sont partis. La mémoire existe encore, notamment par les descendants, et que j'en profite pour les saluer, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec eux, parce que les fils, petits-fils, neveux, raconte des histoires. Et je vous citais tout à l'heure un ancien qui était tout jeune au moment du retour, mais j'ai retrouvé aussi un descendant d'Eugène Genet, ou bien même de Cyprien Kawabreno. Et c'est vrai que de discuter avec les héritiers, les descendants directs, c'est un plaisir. Mais nous sommes tous les héritiers, et aujourd'hui, je pense que nous avons juste initié cette commémoration cette année à l'occasion des 80 ans. Mais l'objectif, c'est que le relais soit repris, et que finalement les écoles, les municipalités, dans les tribus, que les différents acteurs et descendants reprennent le flambeau, et que ce 21 mai redevienne ce moment festif comme il l'a été le 21 mai 1946. Honneur aux volontaires, comme disait la banderole qui les a accueillis dans la rue Ferry, et que ce soit une cérémonie qui soit célébrée chaque année.
Dans une Calédonie fragmentée comme elle l'est aujourd'hui, encore une fois, vous connaissez bien le territoire puisque vous y avez déjà servi de 2002 à 2004, c'est ça, avant de revenir diriger les Fang en août dernier. Dans l'état de la Calédonie actuellement, est-ce que sont des valeurs que vous retrouvez dans la jeunesse calédonienne ? Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut encore exister et que ça peut être fédérateur encore dans la jeunesse d'aujourd'hui, des événements comme cela ?
J'en suis convaincu. J'en suis convaincu lorsque on conduit nos tournées en province. Chaque semaine, nous allons dans les différentes provinces, notamment sur les îles Loyauté, et que nous faisons des chantiers ensemble avec les jeunes, que nous échangeons avec eux, que nous entretenons le monument aux morts de la tribu, du village, de la ville, lorsque nous avons fait la marche des volontaires l'année dernière avec le RIMAPNC, héritier du bataillon du Pacifique, que nous apposons des plaques, je revois cette même volonté de connaître son histoire et de connaître l'histoire de nos anciens. Et lorsque je vois l'engouement des classes de défense aussi pour la thématique, il y a vraiment de l'espérance sur cette reprise de flambeau de la part de notre jeunesse. Hier soir, nous avions un magnifique son et lumière au kiosque sur la place des Cocotiers, qui était vraiment très émouvant, avec la participation bien sûr des Fang, mais aussi la participation de la population nouméenne, de mamans qui étaient venues aussi chanter des chants traditionnels de Nengone, de Djéhou. Et c'était vraiment d'avoir toute cette population réunie et ces jeunes impliqués, parce qu'à la fin le tableau final était en forme de V avec les anciens combattants et les porte-drapeaux qui étaient présents, et entre chaque porte-drapeau il y avait un jeune. Et ils ont lu un texte du général de Gaulle. Et c'était vraiment, un beau témoignage de voir ces anciens combattants et ces jeunes qui reprenaient le flambeau côte à côte, réunis dans cette mise en scène. C'était un son et lumière. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'espérance.
Comment ça peut irriguer la société calédonienne qui, je le dis encore, est, enfin, vous le savez, malade, fragmentée, divisée, meurtrie par les événements. Comment est-ce que ce genre d'événement peut irriguer la société et se redonner peut-être un peu d'espoir et d'enthousiasme à la population ?
simplement en connaissant cette histoire commune. Et je pense que ces commémorations, et je remercie tous nos relais, notamment les médias qui ont bien relayé ces manifestations, ne serait-ce que de, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ne serait-ce que de savoir ce qui s'est passé, de connaître l'engagement de nos anciens, je pense que c'est une première étape. Et ensuite, participer ensemble à ce genre de commémoration permet de regarder son voisin, comme je l'exprime dans mon ordre du jour, et se dire que nous sommes l'un et l'autre héritiers de ces mêmes anciens, de cette même histoire. Et regarder l'avenir en étant très conscient de ce passé commun. Mais je suis convaincu que je vous ai parlé de ce premier pas fait entre le quai et le Zélandia le 5 mai 41. Mais je suis convaincu que faire un pas en avant, et donc peut-être un pas vers l'autre, c'est je sais que c'est très très compliqué. Je le redis avec toute l'humilité que j'ai et tout le respect que j'ai pour l'histoire calédonienne et chacune des communautés. Je pense qu'il y a une histoire commune qui a été écrite et qui reste encore peut-être à ancrer dans le marbre plus profondément et à transmettre aux enfants.
Les commémorations, maintenant, c'est fini, ou il y a encore d'autres événements qui vont avoir lieu tout au long de l'année? Bon, il y aura bien sûr l'arrivée du pomme Jean-Tranap, mais là, c'est autre chose. C'était prévu, ça rentre pas forcément dans le cadre des commémorations, mais il y a d'autres événements prévus?
Alors, on fera rentrer quand même l'arrivée du patrouilleur outre-mer Jean-Tranap, puisque voilà, compagnon de la Libération qui devrait arriver mi-juin. On m'annonce le 18 juin, donc c'est une date quand même assez... mais je reste très prudent et modeste sur ces dates d'arrivée, parce que l'océan peut être capricieux. Mais au-delà de l'arrivée du Jean-Tranap, nous allons avoir un moment très important qui sera le 14 juillet. Si j'évoque le 14 juillet, c'est bien sûr pour la fête ici en Calédonie, mais aussi parce que j'ai obtenu qu'un carré du bataillon du Pacifique participe au 14 juillet sur les Champs-Élysées. Nous allons, je vous l'annonce, avec nos frères d'armes de Polynésie française, nous allons avoir un carré qui va être interarmé pour non seulement incarner le bataillon du Pacifique, mais aussi les forces aériennes et forces navales françaises libres. Nous allons avoir des militaires de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, qui vont être ensemble dans un carré sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Donc j'espère que nous pourrons avoir un écran géant et suivre de très près ce défilé. Et sinon, nous allons avoir d'autres activités, des expositions. Là, j'ai rencontré Monsieur Vial, qui je crois qui est bien connu, qui a une collection personnelle d'objets de la Seconde Guerre mondiale et notamment des volontaires du Pacifique. Et donc, je vais faire un vernissage à la résidence du Comsup avec un certain nombre d'images, d'objets, de souvenirs du bataillon du Pacifique à la fin du mois de juin. Et c'est une exposition qui sera ouverte au public, notamment pour les journées européennes du patrimoine au mois de septembre. Donc j'ouvrirai la résidence à cette occasion-là. Il y a une exposition qui est à la Maison du Combattant, qu'on va rendre itinérante et qui pourra être exposée et montrée ailleurs qu'à Nouméa. J'ai oublié de dire tout à l'heure que le 21 mai a été célébré aussi à Marais. Nous avions le Tantre Casto qui était là, et puis les portes ouvertes que nous avons eues hier, le village des Fanques. Et nous allons avoir des activités sportives. Nous avons une course de va vendredi prochain, le vendredi 29 mai, voilà, qui sera en mémoire aussi de nos anciens. Et puis des activités artistiques, puisque nous avons le projet de peindre un mur, voire deux, ici, dans la ville de Nouméa et sur une emprise des Fanques, et en y associant tout le monde. Et donc, ce sera aussi l'occasion d'inaugurer cette fresque et qui évoquera l'histoire des volontaires du Pacifique, à la fois le départ, les combats, et il y a deux instants qui sont importants, c'est la bataille de Bir Hakeim, bien sûr, et puis c'est aussi le moment où les Calédoniens, pour la première fois, ont mis le pied sur la France métropolitaine lors du débarquement en Provence. Voilà, et puis le retour du bataillon, bien sûr.
Vous parliez vous annonciez ce carré du bataillon du Pacifique sur les Champs-Élysées pour le 14 juillet. C'est une histoire qui est mal connue aussi en métropole, on en parle très peu, d'abord de la guerre dans le Pacifique, mais aussi de l'engagement des Océaniens, des Français de Calédonie ou de Polynésie. Est-ce que c'est une manière aussi de peut-être faire connaître cette histoire un peu plus largement à la métropole ?
Exactement. Je pense que ce devoir de mémoire, il est collectif, et l'engagement des soldats du Pacifique, qui a été très valorisé et mis à l'honneur par le général de Gaulle lui-même, mérite d'être encore davantage connu. Donc je suis, nous sommes soutenus avec les forces armées en Polynésie française par l'Ordre de la Libération, par exemple, ou par la Fédération Maginot, et qui vont relayer notamment en termes de visibilité du carré du bataillon du Pacifique le 14 juillet. Mais je pense qu'il y a aussi une vraie, un vrai travail pédagogique à refaire. Donc ce sera la bonne occasion le 14 juillet. J'étais très content parce que des médias métropolitains ont repris les commémorations ici, notamment Skyrock, Skyrock PLM pour les militaires, qui a repris et qui a annoncé justement les commémorations des 20 et 21 mai ici à Nouméa. Donc très heureux que des médias en métropole relaient et transmettent finalement cette flamme qui est la nôtre.
Pour revenir à aujourd'hui, on parlait du Jean Trinap, du Pomme qui doit arriver. Il y a déjà le Jean Benemec qui est là. C'est quoi l'utilité de ces patrouilleurs, puisqu'on on va en avoir deux tout neufs là maintenant? C'est quoi? C'est assurer la souveraineté de la France dans la région? C'est une mission de protection? C'est quoi leur rôle exactement?
Alors, juste pour mémoire, notre mission, c'est protéger face à une menace extérieure, et c'est intervenir au profit des Calédoniens, Wallisiens et Futuniens quand il le faut. Il y a un vrai sujet aujourd'hui de risque climatique dans la région, de catastrophes naturelles, et donc l'ensemble de nos moyens, qui sont modernisés d'ailleurs dans le cadre de la loi de programmation militaire entre 2024 et 2030, avec l'actualisation dernière, nous modernisons l'ensemble de nos moyens. Voilà, nous allons avoir des hélicoptères plus modernes, nous allons avoir une armée de terre aussi plus capable d'agir plus promptement en cas de catastrophe naturelle ou dans les pays de la région. Et nous avons donc un deuxième patrouilleur outre-mer qui arrive. Aujourd'hui, les menaces se superposent. On a la compétition entre la Chine et les États-Unis. On a les trafics de drogue qui se multiplient. On a la pêche illicite. On a les catastrophes naturelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent aggraver une situation et une menace émergente ou qui explose dans la région. Et d'avoir des moyens maritimes, l'espace étant tellement immense, d'avoir des moyens maritimes supplémentaires nous permettront de pouvoir intervenir, de pouvoir patrouiller, notamment avec les pays de la région. Ce que nous faisons déjà, nous appuyons les pays de la région en termes de police des pêches, par exemple. Et donc, ce sera un moyen d'être davantage présent et de marquer, bien sûr, notre souveraineté de notre zone économique exclusive.
Ça s'intègre dans la recherche, la construction de l'axe Indo-Pacifique. C'est un rôle qu'ont les FANC aussi. Elles sont un peu l'instrument ou l'outil de cet axe qui doit être mis en place par la France.
Exactement, donc ça rentre dans le cadre de dans la stratégie indo-pacifique de la France, qui pour nous très concrètement s'incarne à travers notre présence aux côtés de nos partenaires, donc aux côtés notamment concernant le Jean Trinap, aux côtés de marines de la région. Au mois de septembre, nous allons avoir une opération qui s'appelle l'opération NAS avec différentes marines de la région, qui permettra justement de marquer ces partenariats entre pays de la région Pacifique Sud-Ouest. Et puis au-delà de ces opérations, tous les exercices. Exercices comme Croix du Sud, l'année prochaine nous allons réitérer cet exercice majeur. 18 pays avaient participé l'année dernière. C'est aussi ma participation personnelle à de nombreux forums et séminaires dans la région. Là, je reviens d'une séquence.
Vous voyagez beaucoup, il y a beaucoup de coopération régionale à faire et vous avez des contacts avec l'ensemble des forces armées de la région.
Exactement, il y a énormément de coopération et de forums. Le mois d'avril-mai a été particulièrement j'étais en Australie, Nouvelle-Zélande et Hawaï, pour rencontrer les chefs d'état-major, généralement, soit de chacune des armées, alors armée de terre, marine et armée de l'air, soit les chefs d'état-major des armées. Voilà, et donc c'est de mon niveau, et il y avait pas mal de forums. Pour ces forums, voilà, c'est dans ma zone de responsabilité, c'est pour ça que j'y vais. Et quatrième pilier, c'est la formation. La formation, nous avons l'Académie du Pacifique et qui fonctionne bien. Là, actuellement, nous venons de terminer une formation cyber, par exemple ici, avec de nombreux pays du Pacifique. Et c'est une académie qui est dynamique, qui fonctionne, et pour répondre vraiment à un besoin de nos pays partenaires.
Ça fait partie du rayonnement de la France dans cette région. C'est les FANC, là aussi, c'est un peu leur mission, au-delà de la protection.
C'est le rayonnement, c'est surtout apporter une offre de formation à des pays qui demandent, qui ont un besoin dans certains secteurs pour lesquels la France a une compétence à apporter. Donc nous sommes coordonnée, articulée avec notamment l'Australie, qui est le grand partenaire dans la région, mais aussi avec la Nouvelle-Zélande, pour être sûr d'offrir une offre qui n'est pas déjà, déjà donnée par un autre pays. Mais c'est vraiment très pratique, c'est très pragmatique. Et c'est, par exemple, je prends la formation des drones l'année dernière. Nous avons formé Fidji, Tonga, Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est vraiment une formation qui les intéresse parce qu'un drone, lors d'une catastrophe naturelle, permet d'aller voir de l'autre côté de la colline lorsque le pont est détruit. Voilà, donc c'est vraiment une formation qui est très demandée par les îles voisines. Et une Académie du Pacifique, d'ailleurs, qui prend une tournure beaucoup plus interministérielle maintenant. Nous avions commencé avec un aspect assez militaire, mais aujourd'hui qui est très interministériel, reprise par l'ambassadrice pour le Pacifique ici, et qui fonctionne.
C'est une innovation, l'Académie du Pacifique. C'est quelque chose de très nouveau et de un peu innovant quand même.
Oui, 2023. Donc c'est le président de la République qui a annoncé.
Encore relativement récent, quoi.
Donc relativement récente. Mais l'année dernière, nous avons formé un grand nombre de partenaires militaires, mais aussi des forces de police, de la sécurité civile. Et donc c'est vraiment une formation qui est dual, à la fois militaire mais aussi civil, et notamment tourné vers les catastrophes naturelles pour accompagner, pour aider les pays à réagir et à pouvoir intervenir auprès de la population plus rapidement.
Beaucoup d'occupations, beaucoup de missions. Général Soubrier, commandant supérieur des FANC, merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparence.
Merci Elisabeth.
La fin de ce magazine Transparence.